Salut les sportifs et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des sportifs connectés. Aujourd'hui, on va discuter avec Hermano. Salut Hermano.
Salut Greg.
On va discuter de gestion d'allure sur des compétitions comme le marathon. Alors, on va prendre en exemple le marathon et plus particulièrement l'expérience que Hermano a vécue au mois d'avril sur le marathon de Rotterdam. Parce que dans son compte-rendu, on s'est rendu compte qu'une partie de sa gestion de course a été un petit peu mise à mal par les données GPS de sa montre Garmin en l'occurrence, mais peu importe la montre qu'on utilise, parce que Hermano, tu as tenté de gérer ton allure avec les données de ta montre GPS sur le marathon de Rotterdam. Donc, est-ce que tu arrives à nous faire un bref résumé de ce qui s'est passé avec cette gestion de course?
J'ai presque envie de nous renvoyer, nous deux et puis nos auditeurs, à l'un de nos premiers épisodes où on parlait un petit peu de l'obsolescence programmée et du suivi des données que nous indiquent nos montres, en l'occurrence pour le marathon de Rotterdam. Et pourtant, j'ai beau courir depuis plusieurs années, j'ai beau savoir qu'il faut prendre parfois ces données avec des pincettes, je me suis un petit peu trop fié à ma montre et du coup, j'étais parti sur... Allez, à la base, la préparation était prévue en 3 heures, que nous avons finalement revisité en 3h10, 3h15 avec mon entraîneur parce que les conditions physiques n'étaient pas forcément à la hauteur du 3 heures escompté en début de préparation et au final à vouloir trop courir après la montre, si je puis m'exprimer ainsi, j'ai fait un petit peu n'importe quoi en termes d'allure et du coup je signe un 3h25. Pour certaines personnes 3h25 c'est génial, je reconnais que moi je courais pas forcément après le temps même si j'aurais bien voulu être dans mon objectif relatif à ma préparation, mais 3h25 c'est quand même un très beau temps et j'en suis très content. Bref, tout ça pour revenir sur le fait que j'ai certainement trop couru derrière les données que m'indiquait ma montre, c'est peut-être pas la meilleure idée.
Alors effectivement, juste pour rappel, donc toi tu avais décidé de te baser sur une allure cible au kilomètre lors de ce marathon de Rotterdam, tu as utilisé les données de ta montre et puis on va réécouter un extrait du podcast que tu avais publié dans Salut les sportifs juste après ce marathon de Rotterdam pour écouter exactement ce que tu disais par rapport à la gestion de ton allure au kilomètre avec ta montre GPS.
Au niveau du tempo, on s'était fixé 4,25 jusqu'au 30e kilomètre et puis accélération après progressive si c'est possible. Bon. J'ai encore eu des petits soucis avec la montre. Décidément, je ne sais pas ce que je lui fais à ma montre, mais elle ne veut pas avec moi. Enfin, mes montres, elles ne veulent pas avec moi. Donc, en instantané, la montre me donnait bien 4 minutes 25 au kilo. Sauf qu'à chaque fois que je bipais au kilomètre, qui était exactement à 100 mètres près, non, à 10 mètres près, le même que le kilo posé par l'organisation, eh bien, j'avais des temps de passage à 4,12, 4,13, 4,15, 4,11. Donc, bon. À chaque fois, entre chaque kilomètre, j'essayais de ralentir. Malgré tout, j'étais trop rapide. Du coup, au 15e, j'ai essayé vraiment de lever le pied.
Voilà, donc on entend dans ce petit extrait de ton podcast que la montre te donnait des informations, mais que les réels temps de passage à chaque borne kilométrique du marathon, eh bien tu avais 10-15 secondes d'écart par rapport à ce que t'indiquait la montre. Et il faut bien le dire, en gestion d'effort sur marathon, surtout à des allures comme 4,25 ou 4,10, l'écart il est très important.
10 secondes d'écart entre le temps que t'indique ta montre en instantané et le temps réel qui bip au kilomètre, c'est juste énorme à cette allure-là. Alors peut-être que sur une allure de 6 minutes 30, 7 minutes au kilo, c'est un peu moins important, mais sur des allures comme ça, donc 4 minutes 15, ça correspond à plus de 14 km/h, 10 secondes d'écart au kilomètre, c'est énorme.
Ouais. Donc on peut imaginer que si tu as augmenté l'allure à cause des informations de ta montre sur les 12 premiers kilomètres, ça a quand même pu largement prétériter ta performance sur le marathon global, parce que dans la suite de ce podcast, tu dis que tu as heurté le mur très très tôt par rapport à ce que tu avais rencontré d'habitude et que là, dès le kilomètre 20, ça a commencé à devenir très difficile.
Ouais, effectivement, c'était pas mon premier marathon, hein. J'en ai déjà fait une dizaine avant, donc je m'attendais, comme tout marathonien, à heurter le mur et j'espérais le franchir en douceur. Malheureusement, comme tu l'as rappelé et comme je l'ai dit dans mon podcast, j'ai pris un premier mur à 20 km à peu près du départ. Et puis, même si je pensais que c'était fini, j'ai essayé de tenir bon et de pas trop diminuer le rythme, mais j'en ai pris un deuxième au 30e. Mais moi, ça m'était jamais arrivé, et il faut dire que le deuxième mur, c'était juste, comment dire, l'apocalypse.
Ouais. Donc, moi, j'ai pas couru autant de marathons que toi, et puis je pense pas qu'on peut comparer la même distance, mais sur un Ironman, mais par contre, sur mes marathons, je dirais simples, c'est que, effectivement, au kilomètre 30, 32, ça commence à devenir très difficile. Donc là, c'est le fameux mur du marathon, mais par contre, le double mur, c'est vrai que je l'avais pas rencontré. Maintenant, au niveau de la gestion de l'effort sur son marathon, donc toi, tu as décidé de partir sur une allure qui était définie au kilomètre. Donc ça, c'est effectivement une gestion de course très traditionnelle. Pour la plupart des coureurs à pied sur marathon, ou en tout cas sur course sur route, c'est vraiment une mesure qui est utilisée très largement pour gérer sa course. Donc là, on peut partir du principe que c'est une bonne indication si on est sur un parcours plat et puis qu'il n'y a pas trop de vent qui vient influer sur cette allure. C'est quelque chose qui est fiable, qui est vraiment reproductible. Donc, on peut le faire aussi bien à l'entraînement qu'en course. Si les conditions sont les mêmes, on peut se baser sur l'allure. Le problème, c'est que tu t'es basé sur l'allure GPS de ta montre, et beaucoup de coureurs le font. Mais là, c'est beaucoup plus problématique parce que l'allure GPS, elle est très, très rarement stable sur nos montres GPS actuelles, parce qu'il y a des écarts de mesure, parce que la mesure instantanée est très, très lissée, en fait, avec les données des X dernières secondes. Et donc, du coup, on a une réactivité qui n'est pas forcément top. Et puis surtout, on a des indications qui, comme tu l'as rencontré, sont souvent à côté de la plaque.
Je me fouette encore après le marathon, parce que finalement, je devrais le savoir. Déjà, ce n'est pas la première fois que je fais ce type de course, donc je devrais savoir que les données sont parfois un peu aléatoires. Je devrais d'autant plus le savoir qu'elles sont encore moins aléatoires sur les parcours qui ne sont pas communs. C'est-à-dire, si vous vous entraînez quasiment tout le temps au même endroit, vous allez avoir plus de précision en termes de GPS, je pense. Et puis, j'aurais vraiment dû le savoir parce que, déjà, à l'entraînement, j'avais noté qu'il y avait des différences. Et c'est ce qui m'a posé problème aussi sur certains entraînements. On avait beau avoir des parcours d'entraînement relativement réguliers, et à Luxembourg on a la chance d'avoir ce qu'on appelle le long de la Moselle la route du vin, qui est une route quasiment plate et très rectiligne, qui fait une trentaine de kilomètres en bord de Moselle. Donc ça, pour les entraînements plats, c'est juste idéal. Et même là, on avait des allures qui étaient, je dirais pas aléatoires, mais parfois erronées. Alors, en courant à deux l'un à côté de l'autre, puisque j'avais la chance d'avoir un sparring partner, avec deux montres différentes. Moi, j'ai une Garmin VivoActive 3. Lui, il a une Polar V800. On avait déjà des données un peu différentes. Et quand en plus l'entraîneur nous accompagnait avec son GPS Garmin de vélo, il avait encore des données différentes. Donc au final, on était complètement perdus pendant les entraînements, surtout au moment où ça s'intensifiait et où on avait besoin à 3 secondes près de contrôler notre allure, parce qu'on avait comme séance planifiée des séances en espalier ou du fractionné, mais qui se jouaient à 5 ou 10 secondes de différence entre les différentes distances. Vraiment, je me fouette encore parce que j'aurais dû le savoir. Le problème, c'est, je te passe le micro, sur quoi on peut se baser si on ne se base pas sur l'allure instantanée de sa montre GPS?
Tu l'as dit, il y a des circonstances dans lesquelles la montre GPS donnera de meilleurs résultats. Et souvent, quand on s'entraîne, on essaie d'aller en pleine nature. Si on n'est pas dans un sous-bois très couvert, sur un stade d'athlétisme, par exemple, on aura une réception GPS qui sera bonne parce que la montre a une bonne vue dégagée sur le ciel et va capter plus de satellites et donc va avoir une précision qui va être augmentée. Les marathons, souvent, ils ont des parcours qui sont relativement urbains. Donc, on passe dans des rues dans lesquelles il y a des immeubles plus hauts que d'habitude sur nos lieux d'entraînement. Et là, ça va faire de la réfraction d'ondes GPS. Et donc, du coup, ça va un petit peu perturber la mesure de la montre. Donc, elle va afficher des données qui seront moins fiables. Et puis, quoi qu'il arrive, la mesure GPS, elle n'est pas infaillible. Et en général, l'allure que donne la montre, elle est rarement exactement l'allure à laquelle on court. Donc, la solution la plus simple et la plus efficace pour se baser sur son allure sur une course sur route, c'est d'utiliser un capteur de foulée. Donc un petit capteur qu'on va mettre sur la chaussure, qu'on va étalonner ensuite une fois, soit à l'aide du GPS dans un endroit bien dégagé, mais l'idéal c'est de le faire sur une piste d'athlétisme dont on connaît la distance et puis sur laquelle on va faire un étalonnage qui sera vraiment précis. Idéalement à l'allure qu'on vise le marathon, comme ça, voilà, on est vraiment calibré sur l'allure qu'on va faire. Et là, on a une mesure de l'allure l'allure instantanée sur sa montre, qui ne sera pas issue du GPS, qui sera issue du petit accéléromètre qu'il y a dans le capteur de foulée. Et là, ça devient beaucoup plus réactif et beaucoup plus précis.
Mais je me souviens de ces petits capteurs. C'était notamment le Footpod de Polar ou le Nike. Ils avaient travaillé avec des fabricants de chaussures et pas que Nike, où il y avait une petite encoche dans la chaussure et on fixait le capteur, c'est ça ?
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ce capteur, sur la plupart des chaussures qui n'ont pas la semelle qui est prévue pour le glisser dans la chaussure, on peut tout simplement le fixer sur les lacets de la chaussure. Ça fonctionne exactement de la même manière. Et aujourd'hui, on a un capteur sur le marché qui est, à mon avis, la solution la plus fiable et la plus précise pour mesurer l'allure, c'est le capteur de foulée Stride. Donc, celui qui permet encore de mesurer en plus la puissance de course à pied. Donc, ça, on va en parler un petit peu plus tard dans ce podcast. Et là, ça devient vraiment l'arme ultime pour mesurer son allure instantanée parce que ce capteur, il est d'une précision absolument diabolique.
À l'image des applications qu'on utilise, je ne sais pas si tu avais suivi pendant un moment le unbundling de Facebook qui avait décidé de mettre toutes ses applications dans l'application Facebook pour mobile et puis qui maintenant commence à splitter entre Facebook, entre Messenger. Donc là, on est en train de dire, et si on se réfère aux premiers épisodes que l'on a fait, que finalement, notre montre cardio GPS, qui est censée être un capteur cardiaque fiable et un GPS fiable, n'est pas si fiable que ça. Et au final, il nous faudrait cette montre-là, plus un capteur qu'on met à la chaussure, qui est finalement qu'un accéléromètre, on est d'accord,
hein ? Oui.
Donc un accéléromètre pour être certain de la vitesse, de la puissance de nos foulées, et aussi un capteur cardiaque thoracique, parce que finalement, qu'on fait le podcast avec Denis Boucher, celui que l'on a au poignet sur les nouveaux modèles de montres n'est pas si fiable que ça.
Exactement.
Mais c'est de la publicité mensongère, cher ami.
Alors, c'est pas de la publicité mensongère, parce que le GPS, il fait son travail en mesurant la distance, en essayant de mesurer au mieux son allure, mais par contre, on le sait, hein, et c'est la limitation de ce système-là, il a du mal à traquer vraiment les déplacements extrêmement précis et sur une courte durée de temps. Et donc, du coup, voilà, l'allure qui va s'afficher sur la montre présentera une marge d'erreur qui sera de l'ordre de 10, 15, des fois 20%. Donc, c'est très important et tu t'en es rendu compte à tes dépens sur le marathon de Rotterdam. Voilà. Donc, si on peut vraiment donner un conseil à n'importe quel utilisateur d'une montre qui veut se baser sur son allure en compétition, c'est utiliser un capteur de foulée, sinon vous allez avoir des problèmes.
Et est-ce qu'on a quelque part un annuaire des organisateurs de courses qui mettent des kilomètres exacts ou à l'inverse des kilomètres erronés parce que en course, plutôt que d'avoir notre super montre avec les 12 capteurs qu'il faut à côté plus la cafetière pour la petite shoot de caféine, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement utiliser une bonne vieille montre avec un chrono? On tique la montre pour chaque kilomètre pour avoir un tour intermédiaire et donc avoir la distance réelle, pour autant que les kilos indiqués par l'organisateur soient justes.
Alors ça va nous permettre de passer à la manière suivante avec une belle transition de gérer sa course. Alors effectivement, tu peux utiliser ton chrono, que ce soit un chrono tout traditionnel ou bien ta montre GPS pour regarder tes temps de passage à chaque borne kilométrique. On peut partir du principe que sur tous les grands marathons ou sur tous les marathons sérieux, les bornes kilométriques sont posées de manière précise. Par contre, attention, suivant où vous effectuez votre marathon, le panneau il sera un petit peu plus loin, à 1,6 km environ, parce que ce sera des miles. Hein. Si vous allez faire le marathon de Londres, le fait de se retrouver surpris d'avoir couru ces 4 minutes 40 et puis de se dire il est où ce panneau, et puis en fait, ben, il n'est pas au kilomètre, mais il est au mile. Donc voilà, dès le début du marathon, il y a quelque chose qui se passe assez mal si on n'a vraiment pas prévu le coup. Mais comme tu le disais, on peut déclencher son chronomètre à chaque panneau kilométrique, et puis là, gérer sa course de cette manière. Mais ça nécessite quand même de se connaître un petit peu parce qu'on aura une information de timing et d'allure qu'une fois à chaque kilomètre. Donc, si on se connaît mal et puis qu'on n'arrive pas à réguler son allure, on va mettre 4, 5, 6 kilomètres avant de vraiment trouver son allure optimale. Mais là, on peut déjà s'être grillé avec un effort trop important ou alors déjà avoir perdu son objectif temps si on est en retard par rapport à ses temps de passage, parce qu'après, il est illusoire, même après avoir perdu une minute sur les 5 premiers kilomètres, de vouloir la rattraper ensuite, parce que là, on va droit dans le mur, hein, au sens propre comme au figuré, du coup.
D'autant que l'intitulé du podcast d'aujourd'hui, c'est la gestion de course. Et moi, je pense qu'il est bon de rappeler à nos auditeurs quand même que on parle de regarder sa montre, on parle d'allure, mais finalement, le jour d'une compétition, le jour d'une course, chaque détail a son importance dans la gestion de course. Je ne sais pas ce que tu en penses. On parle beaucoup de moi depuis 20 minutes, mais et toi, alors, quand tu fais des courses, et notamment l'Ironman, comment ça se passe, ta gestion de course?
Alors, ça dépend vraiment de la course que je vais rencontrer. Si c'est une course à plat, sur un parcours sur route, que ce soit sur un Ironman, un demi-Ironman, un triathlon ou peu importe, pour la partie course à pied, je me base sur l'allure. Mais par contre, moi, effectivement, j'utilise un capteur de foulée depuis plusieurs années maintenant, et c'est vrai que c'est une grande aide par rapport à utiliser l'allure qui est issue du GPS. Et puis, d'autant plus que sur certains triathlons, il n'y a pas d'indication kilométrique de chaque kilomètre du parcours, parce qu'on effectue une boucle plusieurs fois ou parce que voilà, les organisateurs de triathlon ne mettent pas forcément un panneau à chaque kilomètre. Donc, ça permet quand même d'avoir un footpod ou un capteur de foulée de gérer son allure au mieux. Après, si c'est des triathlons qui sont un petit peu plus bosselés, ou en tout cas avec du dénivelé en course à pied, l'allure, ça devient quasiment impossible à utiliser, parce que dans les descentes, on va aller plus vite que l'allure cible, dans les montées, on va aller plus lentement, et puis ça va devenir plus difficile à gérer. Donc là, à partir de ce moment-là, on a une autre solution qui nous permet de gérer notre course, c'est la fréquence cardiaque. Donc la fréquence cardiaque, elle est très bien sur des efforts qui sont relativement courts. Donc en triathlon, on a un effet qui est on a déjà fait la natation et le cyclisme avant, donc quand on arrive sur la course à pied, on est déjà un petit peu fatigué, donc il faut prendre en compte le fait qu'on a déjà un début de ce qu'on appelle la dérive cardiaque, c'est-à-dire que la fréquence cardiaque a un effort constant, elle va avoir tendance à baisser au fil du temps. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc la fréquence cardiaque, c'est pas idéal non plus pour gérer son effort, mais c'est toujours mieux quand on a des grosses montées et des grosses descentes plutôt que d'utiliser l'allure, parce que là, c'est plus utilisable, ou en cas de fort vent, hein. Même sur route, si c'est plat, moi je me souviens de quelques éditions du marathon de Lausanne où j'avais fait le semi, et avec un tel vent de face, l'allure, c'est plus utilisable, parce que ben, même à pied, hein, on parle souvent du vent de face à vélo, mais même à pied, ça a un impact considérable. L'allure, là, elle est pas non plus utilisable, ou alors il faut savoir la remettre en place. Et donc, moi, la solution que j'utilise, c'est depuis à peu près 2 ans maintenant, c'est la puissance en course à pied. Donc, on connaissait la puissance en cyclisme, mais Stride, typiquement, a été le pionnier de la puissance en course à pied. Là, c'est de nouveau un footpod, un capteur de foulée qu'on va mettre sur sa chaussure, mais en plus de donner des indications d'allure qui sont vraies et qui sont fiables, le capteur va extrapoler une donnée de puissance en course à pied, c'est-à-dire me donner un nombre de watts que je suis en train d'appliquer lors de ma course. Et là, cette indication, si ça commence à monter ou ça commence à descendre, le capteur va me donner des indications qui seront extrêmement réactives, plus réactives que la fréquence cardiaque qui va mettre un temps à s'adapter, qui seront plus fiables que l'allure, parce que l'allure, c'est difficile à gérer quand on monte ou quand on descend. Et donc, du coup, là, je vais pouvoir faire une gestion de course qui sera quasiment infaillible. Je dis quasiment parce que la puissance aujourd'hui ne prend pas en compte la force du vent. Donc, le vent reste un problème avec cette donnée-là.
Mais donc, on est d'accord sur l'appareil Stride, c'est un seul et même appareil qui mesure ton allure et ta puissance.
Oui, exactement.
Ce sont deux capteurs différents.
C'est un seul capteur de foulée que je vais fixer sur les lacets de ma chaussure et qui va me donner une information de distance et de vitesse comme n'importe quel capteur de foulée du marché, mais qui en plus, avec ses algorithmes internes, il dispose aussi d'un altimètre barométrique interne dédié pour détecter la montée ou la descente. Et lui, grâce à toutes ces données-là, il va me calculer un nombre de watts, en fait la puissance que je vais développer en course à pied.
Que ce soit en vélo ou en course à pied, quand le dessin du parcours change, c'est-à-dire quand on monte ou quand on descend, on va pas forcément avoir la même puissance. Typiquement, je pense que ça parle plus à nos auditeurs, peut-être en vélo. Quand on monte, on va accrocher le guidon, tirer sur le guidon, appuyer sur les pédales, donc on va mettre plus de puissance que quand on descend, où là, on va quasiment laisser rouler.
Alors, à vélo, c'est clair, de toute façon, dans les descentes, c'est très difficile de garder le même niveau de puissance qu'en montée, et puis en montée, en général, on a 10-15% de puissance en plus que quand on est à plat. En course à pied, ça va être à peu près dans les mêmes ordres, parce qu'en descente, mettre la même puissance qu'on a mis à la montée, c'est très difficile, et puis, en général, on a quand même toujours tendance à mettre quelques watts en plus à la montée que quand on est à plat, mais en fait, cette différence, elle est moins importante en course à pied qu'à vélo. C'est-à-dire qu'à vélo, il suffit de laisser rouler rouler les roues pour descendre. Donc à 0 watt, on peut descendre. En course à pied, ce n'est pas le cas. On doit continuer à courir, même si c'est plus facile parce qu'on a la gravité qui nous aide. Donc du coup, on a des différences qui sont moindres et vraiment utiliser les watts sur sa montre de course à pied, c'est vraiment une aide. Et pour moi, si je devais refaire un marathon maintenant, je ferais clairement une préparation dédiée avec les watts de mon stride et j'utiliserais vraiment cette donnée-là, uniquement cette donnée-là, pour gérer ma course.
On précise quand même, on n'est pas sponsorisé, Stride nous a rien donné, toi t'en as un que tu as acheté.
Exact, oui, c'est le cas.
Mais si, si on parle justement des différents tests que tu effectues pour ton site nakan.ch, cet appareil est compatible avec tout ou quasiment toutes les montres cardio-GPS du marché, ou est-ce que ça fonctionne uniquement avec les grands noms, Polar, Suunto, Garmin
Alors, moi, je l'ai testé avec les trois marques majeures, hein, c'est-à-dire Garmin. On peut facilement utiliser le Stride avec Garmin en utilisant l'application Connect IQ qui est fournie par Stride. On peut l'utiliser avec toutes les montres de Polar, de la V800 maintenant les nouvelles Vantage, parce qu'ils se couplent en Bluetooth, et puis on peut l'utiliser comme un capteur traditionnel. Donc on le sait, hein, les montres Vantage de Polar sont déjà équipées pour utiliser la puissance en course à pied. Donc c'est simplement que la montre utilisera plutôt la donnée qui sera issue du Stride plutôt que la donnée interne de Polar. Et puis chez Suunto, on le coupe tout simplement comme un capteur de puissance normal pour la course à pied, et puis il indique les watts dans le profil de course à pied aussi sur toutes les générations de montres, je crois à partir de la Ambit 3, toutes les Spartan et toutes les nouvelles montres de Suunto, donc la Suunto 9 et la Suunto 5. Donc là, il n'y a pas de problème à utiliser le Stride sur ces marques-là. Ensuite, il y a une application Stride pour l'Apple Watch qui est disponible, donc on peut aussi utiliser son Apple Watch. Et puis, les autres montres du marché, je ne les ai pas toutes testées, mais on trouve probablement une matrice complète de compatibilité sur le site de Stride.
Donc en gros, je revends ma Garmin VivoActive, j'achète une Apple Watch et je me prends un capteur thoracique pour la fréquence cardiaque et un Stride pour la puissance et l'allure, et puis je suis réglé.
Bah en fait, tu peux même ne pas changer ta VivoActive parce qu'elle est nativement compatible avec le Stride.
Ouais, mais c'est moins sympa comme montre connectée.
Oui, alors comme montre connectée, effectivement, tu peux l'utiliser aussi bien avec ton Apple Watch qu'avec ta VivoActive, il n'y a pas de problème.
Et du coup, une fois qu'on a tous ces capteurs-là, une fois qu'on est prêt pour aller s'entraîner, revenons sur notre gestion de course. Comment est-ce que, à ton avis, on gère au mieux avec ces données de capteurs de puissance? Parce qu'on l'a dit, dans le cadre de la préparation, on s'entraîne sur un parcours ou sur des parcours qui sont réguliers. Une préparation marathon, en général, on est autour de 12 semaines, donc ça correspond à 3 mois minimum. Mais le jour de la course, c'est rare qu'on soit allé sur le lieu de la course. Mais en gros, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer notre course avec ces données-là pour être certain qu'elle soit un peu plus cohérente que celle du cardio GPS seulement, et puis ne pas être complètement pris de court.
Alors, le gros avantage de l'utilisation de la puissance à pied, c'est comme on l'a dit, il prend en compte la pente. C'est-à-dire que si moi je m'entraîne sur un parcours autour de chez moi qui a des dénivelés qui sont de l'ordre de 4-5%, et puis que je vais faire un marathon avec un parcours quasiment à plat, eh bien je vais pouvoir extrapoler mes données de puissance dans la plupart des cas de ma pente montante sur mes parcours d'entraînement à une puissance à délivrer à pied, enfin à plat. Et puis, donc du coup, ça va m'aider parce que ça veut dire que je suis pas obligé d'aller sur le parcours du marathon ou sur un parcours extrêmement proche pour pouvoir utiliser ces données. Ce qui est important de s'entraîner, bah, c'est évidemment aussi au niveau morphologique et puis de l'adaptation de son corps pour préparer l'effort en question, c'est que je vais pas m'entraîner sur des parcours de trail pour aller faire un marathon sur route. Déjà, ça a aucun sens parce que des watts qui sont faits en haute montagne sont pas valides sur un parcours à plat, et puis des watts qui sont faits sur de la terre boueuse ne sera pas valide sur du bitume. Enfin voilà, on peut pas non plus tout mélanger. Mais par contre, ça permet quand même d'avoir plus de souplesse sur ces terrains d'entraînement. Et donc du coup, si je vais courir au bord du lac chez moi et puis que j'ai une pente qui monte à 2 ou 3%, ce sera pas gênant dans l'interprétation des watts par rapport à une pente parfaitement à plat si je vais faire le marathon de Berlin par exemple.
Revenons-en à la gestion de course, parce que là on parle du suivi de l'allure, suivi de la puissance pendant la course. Toi, quand tu vas faire allez, on va prendre l'exemple d'un Ironman, comment est-ce que tu vas gérer ta course, sachant que l'Ironman, on le rappelle, ce sont trois sports enchaînés l'un après l'autre sans pause: 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Comment est-ce que tu vas gérer un petit peu ta course, tes différentes épreuves pour arriver jusqu'au bout. Est-ce que tu vas tout donner dès le début ou ça va être une puissance relativement régulière ou ça va être plutôt en fractionné ou une montée en puissance jusqu'à la fin ?
Alors, l'Ironman, c'est un exemple qui est particulier parce qu'on arrive sur le marathon, on est déjà largement fatigué. Donc là, sur un marathon normal, j'aurais tendance à dire, je vais calculer ma FTP en course à pied exactement comme je calcule ma FTP.
FTP, pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors, la FTP, c'est l'effort maximal en watts qu'on va pouvoir tenir pendant une heure. Donc, on le connaît sous l'acronyme CP, Critical Power, ou alors FTP, Functional Threshold Power. Donc ça, c'est vraiment la donnée du nombre de watts que je vais pouvoir tenir au maximum pendant une heure. Donc cette donnée-là, on la calcule pour le vélo pour gérer sa partie cycliste et puis ensuite pour la course à pied. Maintenant, le marathon d'un Ironman, je ne vais pas pouvoir tenir ma FTP de la même manière sur un marathon d'Ironman que sur un marathon à sec puisque j'ai déjà fait le vélo avant. Donc ce que je vais faire dans l'idéal pour gérer ma course à pied sur un Ironman avec la puissance, c'est de faire une sortie longue à vélo de type 120. Il n'y a pas besoin d'aller faire les 180 km, mais je vais peut-être faire 100, 120 km en appuyant assez fort sur le vélo. Et puis ensuite, juste dans l'enchaînement, je vais aller faire un test FTP. Donc, comme si je faisais un test FTP à vide, en fait, entre guillemets, pour gérer un marathon. Mais là, je vais le faire en précharge, donc avec un entraînement de vélo avant. On part du principe que la natation ne devrait pas avoir une influence énorme sur l'état de forme sur le marathon. Et puis, en utilisant ces données de FTP que j'ai fait après le vélo, je vais pouvoir gérer un certain pourcentage de cette FTP sur un effort de 3 heures. Donc là, ça, il y a des outils aussi qui permettent de le calculer. Et puis, ensuite, tenir cette puissance un maximum de temps. Maintenant, on le sait, hein, sur un Ironman, il y a bien d'autres paramètres. C'est beaucoup plus difficile d'être prédictif sur le temps qu'on va faire sur le marathon d'un Ironman qu'un marathon à sec. Donc, si on prend l'exemple d'un marathon simple à sec, donc je vais faire mon test de FTP en course à pied avant pour planifier mon entraînement. Donc ça, sur nakan.ch, il y a un dossier thématique sur la course à pied en utilisant la puissance qui décrit exactement comment on va le faire, le protocole. Et puis, après avoir fait ce test FTP, j'ai une valeur donc, de FTP en watts. Et puis là-dessus, je vais pouvoir baser tous mes entraînements, donc faire un entraînement correct dans mes zones de puissance. Et puis, avec ma connaissance de ma puissance en course à pied basée sur ces entraînements plus ma FTP, je vais pouvoir faire mon plan de course.
Et j'imagine que de toute façon, les montres que l'on utilise actuellement, les derniers modèles de Garmin, Polar, Suunto et autres, proposent aussi un protocole de test, non ?
Alors non, c'est pas forcément le cas. Certaines de ces montres proposent un protocole de test pour le FTP à vélo. C'est vrai qu'en course à pied, l'implémentation des fonctions pour la puissance en course à pied est vraiment encore en train d'arriver. On est au balbutiement de l'utilisation de cette technologie pour la course à pied. Et pour l'instant, c'est pas vraiment des algorithmes qui sont encore pré-programmés dans nos montres et prêts à être utilisés comme ça. Donc pour l'instant, on est encore un petit peu des précurseurs ceux qui utilisent ça. Même si Stride a vraiment développé la pratique et a vendu quand même beaucoup de capteurs de puissance en course à pied, j'évangélise pas mal les utilisateurs à cette donnée parce que d'une part à vélo elle m'a beaucoup aidé à progresser et puis d'autre part je la trouve aussi très intéressante en gestion de course en course à pied parce que on a parlé des problèmes qu'il y avait avant et la dérive cardiaque qui pose des problèmes sur la gestion de course en fréquence cardiaque et le problème de précision de mesure sur la gestion de course en allure. Pour moi la puissance ça reste quand même le meilleur outil qu'on ait aujourd'hui à notre disposition pour gérer correctement notre effort de course.
Jusqu'à ce qu'il y ait une de ces marques, un nouvel entrant, qui décide de mixer tous les paramètres, donc la fréquence cardiaque, l'allure, modulo, qu'elle soit GPS ou pas, et puis la puissance, et qu'il nous sorte un joli algorithme qui va nous donner finalement sur un seul écran de notre montre notre niveau de forme ou notre niveau d'allure pour aller avec notre entraînement. Qu'est-ce que t'en penses ?
C'est pas impossible qu'avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le big data et puis toutes ces choses qui sont en train d'arriver et qui vont révolutionner dans les années à venir nos montres connectées, qu'on arrive à des choses comme ça. Mais je pense que ça va quand même prendre du temps pour arriver à des données qui soient vraiment exploitables par chacun parce que individuellement, on arrive à trouver des algorithmes qui sont performants, mais il faut trouver des algorithmes qui fonctionnent pour la quasi-totalité d'entre nous et là, ça devient plus problématique. Et puis, en attendant, je pense que la puissance reste un très bon outil.
Bah, écoute, je pense qu'on a tous toutes les données en main maintenant pour pouvoir programmer au mieux nos entraînements et puis performer, voire surperformer sur les compétitions.
Bah, le dernier point peut-être qu'on pourrait dire, c'est qu'il faut aussi, dans tous les cas, se préparer et mentalement et au niveau de la technique et de la gestion de course. Il faut se préparer à ce que ces outils, ils nous lâchent pendant la course. On prépare un marathon pendant une année, on prépare un Ironman pendant une année, c'est l'objectif d'une saison, c'est l'objectif des fois sur deux ans, c'est l'objectif d'une vie pour certaines personnes. On base l'essentiel de notre préparation sur un gadget électronique qui peut nous faire faux bond. Et puis, ça arrive à des gens. Il y a des gens qui m'ont écrit « Ma montre, elle m'a lâché au kilomètre 25 sur mon marathon, j'étais perdu. » Et je trouve que c'est dommage de foirer une course parce qu'on a un truc qui nous a lâché. Alors, il faut aussi qu'on s'entraîne, et on en parlait dans le premier épisode avec Denis Boucher, il faut qu'on s'entraîne à se connaître aussi, à gérer sa course au feeling. Et je sais que c'est compliqué. Alors, quand on prend un Kipchoge qui fait des marathons en 2h03 sans montre, parce que le mec, il va jamais regarder une montre. D'une part, parce que pour la première moitié de la course, il a des lièvres qui sont là pour lui donner l'allure et pour l'emmener sur l'allure qui va le rapprocher du record du parcours, ou en tout cas d'un bon temps sur ce parcours.
Pour ceux qui ne connaissent pas, normalement c'est connu, mais un lièvre, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Rapidement, je fais une petite parenthèse.
Oui, alors le lièvre, c'est des coureurs qui prennent le départ du marathon pour donner l'allure aux meilleurs athlètes, mais qui ne vont pas faire la durée totale du marathon. C'est-à-dire que c'est des coureurs qui vont courir jusqu'au semi-marathon, voire un petit peu plus loin, à l'allure qui va emmener les coureurs proches du record de l'épreuve ou voire du record du monde suivant l'épreuve, et puis qui vont abandonner au kilomètre 25 ou 30 parce qu'ils n'arrivent pas à tenir plus longtemps à cette allure-là, qui sont rémunérés pour le faire et qui vont emmener les athlètes pour obtenir des performances qui sont proches des meilleures performances mondiales. Donc voilà, nous on n'a pas ça forcément dans nos blocs de départ pour des marathons en 3h20.
Bah non, mais je comprends pas, c'est inadmissible. Donc tu disais, eux ont les lièvres, mais Kipchoge n'a que son lièvre, ses lièvres. Départ d'une course.
Oui, et puis surtout, il les a pas tout le long. Et quand il va se retrouver seul face à sa course, il sait exactement se gérer, il sait exactement gérer la fin de son parcours pour faire la meilleure performance possible. Mais lui, c'est un coureur professionnel qui n'utilisera jamais une montre, qui va s'entraîner toujours au feeling, et puis qui va faire sa course au feeling. Nous, alors qu'on utilise nos montres quasiment en permanence pour gérer nos entraînements et notre effort, c'est plus difficile. Mais il faut qu'on fasse l'effort aussi de faire des entraînements, et pas seulement des entraînements en footing ou des entraînements un peu plus relevés, mais aussi des fois masquer sa montre ou ne pas l'utiliser pour des entraînements fractionnés, pour essayer de se connaître, les limites, et puis de faire peut-être nos 10 répétitions de fractionnés qu'on fait d'habitude avec la montre, avec l'allure, la fréquence cardiaque ou peu importe la donnée, mais de le faire sans rien, et puis d'essayer d'avoir ce feeling pour être dans le même état d'épuisement à la 10e répétition comme si on avait fait l'entraînement avec la montre et les données pour que le jour de la course, si notre montre nous lâche, eh bien qu'on puisse continuer en se connaissant un peu et puis en gérant soi-même son effort à finir au mieux ce marathon.
Donc là, tu viens de me mettre un quatrième coup de fouet, parce que je l'ai déjà dit sur mes épisodes et je crois que je l'ai déjà dit aussi quand on a parlé notamment avec Denis. Mon entraîneur est un fervent défenseur aussi de la course au feeling, et pas une fois de temps en temps. Sur une semaine d'entraînement avec 5 à 6 entraînements par semaine pour une préparation marathon, il met au moins une séance au feeling. Et c'est pas que de la séance récup. Ça peut être 10 km à 4 minutes 30 au kilo au feeling. Tu choisis le parcours, tu fais ce que tu veux, mais t'as pas le droit à la montre. Alors à la limite, tu mets ta montre pour avoir après le compte-rendu de ton entraînement pour ton suivi personnel, mais elle doit être masquée et tu dois jouer le jeu de pas la regarder. C'est vrai que je me remets encore un coup de fouet parce que ça aurait dû me servir pour le marathon, et je dis pas que je ne me suis pas servi de la sensation après. C'est-à-dire, une fois que je me suis effectivement rendu compte que j'ai réalisé que ma montre me donnait des données complètement incohérentes, je me suis efforcé de courir au feeling. Malgré tout, c'était trop tard. Hein. On l'a dit au début, quand t'as perdu une ou deux minutes, ou alors quand t'es en avance de une ou deux minutes sur 5 km, c'est fini, ton marathon, il est terminé, surtout à ces allures-là. Mais je me dis que pour les prochaines courses, je ferai cet effort très certainement de partir au feeling ou de partir avec une information qui sera d'avoir un temps intermédiaire à chaque kilomètre, à chaque bande kilométrique, et pas de suivre la montre. Prendre cette habitude de courir au feeling, et pas uniquement pour écouter les oiseaux, j'exagère, mais aussi pour ressentir l'effort, la douleur ou pas, et commencer à appréhender les sensations, enfin à comprendre les sensations de son corps. Denis nous avait donné un tuyau, c'est-à-dire qu'il demande à ses athlètes qu'il entraîne à chaque fois, après chaque entraînement, de noter la séance avec une note très simple qui va de 1 à 3, je crois, ou 1 à 5, enfin une échelle très, très petite, pour un peu savoir est-ce que tu es content de ta séance par rapport aux indications que t'a donné l'entraîneur, est-ce que tu es content de ta séance par rapport à l'effort que ça a généré, est-ce que t'es content de la sensation que tu as eue, c'est-à-dire même si c'était une séance qui aurait dû être difficile, est-ce qu'elle a été difficile mais elle est bien passée ou est-ce que tu étais complètement poussif. Voilà, il nous a proposé cette échelle de notation, donc si les auditeurs s'en souviennent pas forcément, je les invite à retourner sur le site podcast.nakan.ch ou à réécouter notre épisode. Est-ce que toi tu as d'autres solution à proposer pour justement apprendre à se connaître?
Non, moi j'utilise ça aussi parce que la plateforme Training Peaks que j'utilise pour centraliser mes entraînements donc propose cette notation de la perception de l'effort après la séance, et ça j'essaye de la renseigner au mieux pour pouvoir faire un suivi aussi sur le long terme, un petit peu de est-ce que je me planifie des séances de fractionnés qui sont trop difficiles ou trop faciles, est-ce que je fais trop de fractionnés, est-ce que j'en fais pas assez. Voilà, c'est des choses qui sont difficiles à équilibrer dans son entraînement, mais effectivement c'est des choses qui sont aussi importantes à prendre en compte dans son entraînement.
Bon, donc on résume. Pour gérer, planifier son entraînement, un, ne pas forcément se fier à toutes les données que nous donne la montre, que ce soit l'EPS ou la fréquence cardiaque. À ton sens, ce qui est efficace si on veut gérer l'allure, si on veut suivre sa course, planifier sa course à l'allure, c'est d'avoir un capteur de foulée. Tu nous as donné une marque que l'on pourrait tester, et peut-être même que tu nous mettras un lien affilié sur le site pour que nos auditeurs aillent regarder un petit peu à quoi ça ressemble et qu'ils, s'ils sont intéressés, qu'ils fassent cet achat. Et puis, toi, à ton sens, la meilleure chose, si ce n'est l'allure et la fréquence cardiaque, c'est de gérer sa course, un, avec la mesure de la puissance, deux, peut-être même sans aucune montre, sans aucun appareil et uniquement à la sensation.
Alors pour moi, tu as très bien résumé. Pour moi, l'allure, c'est pas un problème si le parcours est plat et puis qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Donc là, utiliser un footpod ou un capteur de foulée pour avoir une allure qui soit cohérente, et puis là, il n'y a pas de problème pour gérer son allure et sa course avec ça. La deuxième chose, c'est que dès qu'il commence à y avoir un petit peu de montée, un petit peu de descente, on prend par exemple le marathon de New York sur lequel on a le pont de Verrazzano au début de l'épreuve qui représente quand même une pente relativement importante. On a ensuite à l'arrivée, juste avant Central Park, des rues qui montent dans New York. Là, on sera plus à l'aise à gérer son effort avec un capteur de puissance parce qu'il va s'adapter automatiquement à la pente qu'on est en train de franchir. Donc, ce sera plus efficace que l'allure. Et puis, en tous les cas, quelle que soit la technologie qu'on utilise pour gérer sa course, faites des entraînements avant votre marathon ou faites de l'allure cible marathon. Vous portez votre montre, comme ça vous pourrez vérifier après que vous avez été dans la bonne allure. Mais par contre, vous ne la regardez pas. Vous configurez un data field avec juste la température qu'il fait à l'extérieur et puis vous mettez ça en affichage de votre montre pour pas tricher. Mais vraiment, regardez pas la montre. Regardez après la séance. Vous faites 4 blocs de X minutes à l'allure cible marathon. Et puis là, vous y allez que au feeling. Et puis à force, ça va finir par rentrer. Vous allez pouvoir gérer votre course de manière beaucoup plus efficace si la montre ou la technologie que vous utilisez pour gérer votre course vous lâche.
C'est finalement l'expression que j'utilise, avoir l'allure dans les jambes.
Voilà, exactement. Et puis ça, je pense, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à des personnes qui se lancent avec un objectif de performance sur des distances semi-marathon, marathon, ou même du 10 km ou du 5 km. Hein, même si là, entre guillemets, c'est un petit peu plus facile sur un 5 km, en tout cas de mon ressenti, de gérer son effort parce qu'on est de toute façon à blinde. Donc, pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Tant que j'arrive à respirer, c'est que je ne vais pas assez vite.
Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que sur 5 et 10, on part vite, on accélère au milieu et on finit à fond.
Ouais, enfin, voilà, c'est à peu près le même concept. Voilà.
Ok, bah écoute Greg, je pense qu'on a bien fait le tour. Je pense que nos auditeurs ont pas mal d'informations pour pouvoir gérer et planifier leur course. Si jamais on n'a pas suffisamment répondu à vos questions ou d'autres questions vous viennent, n'hésitez pas à vous connecter sur podcast.nakan.ch, un, pour retrouver les notes de l'émission, et deux, vous avez un petit bouton sur la page d'accueil pour nous poser une question, et là vous avez un petit peu la procédure qui est décrite. Le plus simple, c'est nous envoyer un audio ou un petit message WhatsApp et on se fera un plaisir d'y répondre. D'ailleurs, en parlant de ça, je crois qu'on a une question en attente.
Oui, on a une question d'un auditeur qui posait des questions à Denis Boucher par rapport à son livre qui était en contradiction avec un autre ouvrage sur la référence du sport d'endurance et puis la manière un petit peu de gérer ses entraînements. Donc on est sur le coup, on a relancé Denis par rapport à cette question, et puis a priori on se dirige vers un enregistrement de podcast d'un épisode de nouveau avec Denis pour répondre à ça spécifiquement sur 30 ou 40 minutes de podcast, parce qu'apparemment c'est une question qui va un peu plus loin que simplement dire oui, il faut faire comme ci ou comme ça.
On espère que vous avez aimé cet épisode, et en parlant d'aimer l'épisode et d'aimer notre podcast, n'oubliez pas d'aller sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez et que vous utilisez, et principalement iTunes. On adore toutes vos petites remarques, toutes vos petites notes. Ça nous permet, un, de remonter dans les rankings, et deux, de nous améliorer si vous ne nous mettez pas un 5 étoiles. Sur ce, les sportifs connectés, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne continuation, et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions.
Voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode du podcast. On peut déjà vous dire qu'on parlera de confidentialité des données sur nos plateformes d'entraînement en ligne. Voilà, à bientôt.
À bientôt, ciao ciao.